Donc, ça tombe bien, mon thème, c'est un thème qui rejoint la question de la foi, mais qui va emprunter un chemin assez particulier, qui est celui de l'idolâtrie et des pratiques occultes. Alors, très honnêtement, ça fait très très longtemps que je n'ai pas lu des passages de la Bible qui parlent des pratiques occultes. Je ne m'attendais pas à avoir le souci d'en parler, en fait, devant vous aujourd'hui. Et il se trouve qu'il y a eu quelques événements qui ont eu lieu ces derniers mois, ça remonte même peut-être à un an, et je me suis aperçu qu'il y avait dans l'Église un besoin d'enseignement là-dessus, parce que j'ai été orienté et j'ai été conduit à voir des choses, à découvrir des choses qui m'ont fait comprendre que là-dessus, sur la question des pratiques occultes, il y avait un besoin. Donc si je vous en parle, c'est quand même sérieux. Ça veut dire que le peuple de Dieu, les enfants de la maison de Dieu, ont besoin de savoir certaines choses. Alors parfois, on est simplement dans l'ignorance. Alors, si on est dans l'ignorance, il faut être averti. Voilà. Et si on n'était pas dans l'ignorance, mais qu'on a faibli, on a chuté, on s'est endormi, alors il faut se ressaisir. Donc voilà de quoi il s'agit. Alors, je vais commencer par une litanie de mots qui sont évocateurs. Amulette, talisman, gris-gris, bonne étoile, fer à cheval, rameau d'olivier, gousse d'ail, signe astrologique, pain de Saint-Antoine, pâte de lapin, ça fait rire, mais ça existe. Ça existe, des gens qui ont une patte de lapin dans leur veston. Attention, je touche du bois, ouais. Les gens vont toucher du bois, on se demande pourquoi. Crucifix, c'est paradoxal, mais crucifix aussi. Chiffre 13, trèfle à quatre feuilles, étoile filante, muguet, enfin. La liste est longue, hein, on ne va pas épiloguer là-dessus. Vous voyez ? Je me dis que... On est à une époque où nous avons besoin, en tant que chrétiens, comme tout le monde, de savoir. Nous avons besoin d'anticiper, nous avons besoin d'être rassurés. Et c'est vrai que souvent, on constate que les gens qui n'ont pas Dieu, qui n'ont aucune personne envers qui pouvoir compter, ou je dirais qu'ils sont un peu perdus, ils cherchent des réponses. Alors on cherche des réponses en trouvant des voies, en se recherchant par des voies qui sont occultes. La question, c'est que nous aussi, nous avons nos problèmes. Les chrétiens aussi sont des hommes et des femmes comme tous les autres. Est-ce qu'ils doivent, eux aussi, pratiquer de la même façon? Est-ce que Dieu nous appelle à aller chercher des réponses en dehors de Dieu? En dehors, n'est-ce pas, de la parole de Dieu, en dehors de l'Église. Là est la question. Donc, je me suis livré à une petite recherche statistique. On a un institut de statistique qui s'appelle IFOP, vous connaissez bien, qui a fait en mai 2022 une petite enquête. Alors l'enquête a été faite sur un échantillon d'à peu près 1000 personnes. C'est raisonnable, hein, quand on part sur 1000 personnes. Ces 1000 personnes sont représentatives de la population française, c'est-à-dire qu'il y a la proportion de femmes et d'hommes qu'il y a dans la population française. On a des cadres, on a des ouvriers, des employés, des commerçants, des artisans, enfin toutes les catégories socio-professionnelles. On a également des personnes qui vivent en ville, qui vivent à la campagne, bref. On a des personnes de toutes tranches d'âge. Donc c'est une étude statistique qui est représentative des millions de Français qu'on représente. Donc que dit cette étude ? Elle nous dit déjà que 33% des Français, bon, on ne va pas s'étonner, hein, vous connaissez ces éléments, 33% des Français se disent superstitieux. Et on a une hausse de 7 points de pourcentage par rapport à 1990. Donc, ça a tendance à augmenter. 69% des Français croient au moins en une superstition positive. Voilà. 69% des Français croient dans au moins une superstition positive, c'est-à-dire que le trèfle à quatre feuilles, toucher du bois, une étoile filante, ça porte chance. C'est énorme, 69%, n'est-ce pas? On est à 70%. C'est plus des deux tiers. Ensuite, vous avez 13% des Français, et là, il y a une progression. 13% des Français qui ont consulté un voyant, une voyante en 2010, 14% en 2020, donc on prend un point de pourcentage, puis 17% en 2022. Ouais, donc on consulte des voyants, des voyantes. Et quand on fait une statistique, quand on fait une enquête sur ceux qui ont consulté ou qui pourraient consulter, c'est-à-dire qui voudraient peut-être un jour consulter, là on double, on passe de 17 à 34, 34% ont consulté ou pourraient consulter. C'est un tiers de la population française. Alors, ce n'est pas étonnant, hein, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On sait très bien que depuis Babylone, hein, depuis la nuit des temps, les êtres humains cherchent à connaître leur avenir. Ils veulent savoir. Et ils recourent à donc ces pratiques occultes. Alors, l'idée ici, c'est d'essayer de dire honnêtement ce qu'il en est, et pas se cacher. Qu'est-ce que Dieu pense de cela? Alors, Dieu qualifie, alors le mot est fort, hein, c'est violent, hein. Dieu qualifie toutes les pratiques occultes, je ne dis pas quelques-unes, toutes les pratiques occultes, d'abomination. Le mot est fort, le mot est très fort. Une abomination, c'est ce qu'on ne peut pas supporter, qui nous est en horreur. Vous voyez, c'est quelque chose qui nous est en horreur. L'abomination, toutes les pratiques occultes. Alors maintenant, on passe à la diapo suivante, on va dire un verset. Dieu s'adresse au peuple d'Israël une fois qu'il a quitté le pays d'Égypte. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Toutes les nations qui étaient autour pratiquaient la magie, la sorcellerie. Qu'on ne trouve chez toi, alors là c'est, j'aime bien parce que c'est très détaillé, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Vous vous rendez compte? Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, magicienne, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits. Vous voyez? Waouh! Ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Oui, aïe, aïe. Dans pratiquement toutes les traditions du monde. En Afrique, je suis bien placé pour le savoir. Je suis franco-togolais, donc mon père est togolais, africain, ma mère est française. Je peux vous dire que, attention, en Asie, partout. Mais oui, invoquer les morts et chercher à leur parler. Donc, quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Donc, voyez, c'est précis. Verset suivant. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. Si vous avez dans vos maisons des choses, des amulettes, des talismans, des stèles, des statues représentant je ne sais quoi, enlevez-les aujourd'hui en rentrant à midi. Et cassez-les avec une masse. Si vous n'avez pas le courage de le faire, vous m'appelez, je le fais, je casse. Je piétine et croyez-moi, il ne m'arrivera rien. Moi, il ne m'arrivera rien du tout. Si vous avez peur, vous m'appelez en secret. Pas devant tout le monde. Vous m'appelez, il n'y a pas de problème. Moi, je vais piétiner, je vais casser. Et maintenant, je vais dire, on va voir ce qui va arriver. On y va, on va voir. Je n'ai pas peur, moi. Tu n'introduiras pas une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit, donc rejetée, désavouée. Tu ne l'auras en horreur, tu l'auras en abomination. Vous voyez, c'est fort. On vous appelle à rejeter cette chose de tout votre cœur, de tout votre corps, de tout votre esprit. Punaise, le Seigneur là-dessus, il insiste, c'est pas pour rien. Lévitique. Donc il y a un certain nombre de versets qu'il faut lire. Il faut lire. Vous ne vous ferez pas d'idole, vous ne dresserez chez vous ni statue ni stèle, vous ne mettrez pas dans votre pays des pierres sculptées pour vous, n'est-ce pas, prosterner devant elle, je suis le Seigneur votre Dieu. Vous voyez, donc les choses sont très claires par rapport au fait que tout ce qui relève de la sorcellerie, de l'idolâtrie, tout ça là, mais c'est proscrit, c'est interdit. Et ce n'est pas interdit pour embêter les gens. Hein. Il y a des raisons derrière. On va voir ça en conclusion. Il y a des raisons. Il y a des raisons spirituelles. Il y a des raisons logiques. Il y a des raisons de fidélité. Est-ce que je suis fidèle à ma femme ou je suis fidèle à qui ? Avec qui est-ce que je suis fidèle ? Si l'épouse est une épouse, le corps de Christ est une épouse, elle est fidèle à son fiancé. On est fidèle à quelqu'un, quoi, je veux dire. Sinon, on trahit. On trompe, c'est un adultère, c'est tout, on est un adultère. Si on trompe, on est adultère. Donc, on a vu que ces choses, n'est-ce pas, Dieu les qualifiait d'abomination. Maintenant, on va voir que Dieu déclare que toutes les pratiques occultes sont des péchés. Donc, le mot péché est important, et c'est des péchés graves qui compromettent la vie éternelle. Ça compromet votre avenir avec Dieu, c'est clair. On poursuit. Donc Dieu nous demande, vous observerez tout ce que je vous ai dit. Dieu nous demande même de ne pas prononcer le nom d'autre Dieu, qu'on ne l'entende point sortir de votre bouche, voyez. À part ci, à part ça. Non, non, non. Pourquoi ? Même pas cela, cela ne va même pas sortir de notre bouche. 1 Samuel 15, 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Vous voyez, quand on dit que les hommes ont désobéi, Adam et Ève ont désobéi, la désobéissance à Dieu, elle est aussi coupable que la divination. Et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Les théraphimes, ce sont des statues, ce sont des objets de divination dans la Bible. Et puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Là, Samuel s'adresse à un roi qui a été infidèle à Dieu, c'est le roi Saül, et il a été destitué. Et la personne qui lui a succédé, que Dieu a désigné, c'était David, qui n'était pas roi, qui était un petit berger, de rien du tout, d'une famille de plusieurs garçons, qui étaient bien plus costauds que lui. Et Samuel a dit, c'est ce petit gringalet qui va être le roi. Corinthiens. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres. Vous voyez, on parle d'idolâtrie, là, on parle d'occultisme. Donc, non, ce n'est pas une voie à emprunter. Et si on emprunte cette voie, eh bien, ça nous ferme, n'est-ce pas, l'accès à Dieu. Ça nous interdit l'accès à la vie éternelle et ça rompt le lien de confiance qu'il y a entre nous et Dieu. Si jamais vous avez péché dans ce domaine, en rentrant, repentez-vous. Mettez-vous à genoux, pleurez, demandez pardon à Dieu. Si vous avez fait ça, si vous êtes en train de le faire, mettez à genoux. Aujourd'hui, n'attendez pas. Hein, et vous faites ce qu'il faut faire pour demander pardon à Dieu. Et si vous avez peur de casser vos choses, vous m'appelez. C'est pas grave. Donc, Dieu déclare que ces choses sont des péchés graves qui compromettent la vie éternelle. Et ça, c'est une chose vraiment importante. Alors, Dieu élargit aussi dans la parole. On s'aperçoit que, finalement, une statue d'idolâtrie, bon, ok, ça paraît un peu simpliste, vous voyez ? Mais après, on élargit et on voit qu'en fait, on a d'autres également types d'idolâtrie qui sont plus symboliques, vous voyez, qui ne sont pas forcément palpables. L'amour de l'argent. On peut devenir idolâtre. Voilà. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En se livrant à l'amour de l'argent, certains se sont égarés, loin de la foi. Donc la soif de posséder, qui est une idolâtrie aussi. Alors, on pourrait continuer la liste. Si votre mari est votre Dieu, si du matin au soir, votre mari est dans vos pensées, et il n'y a que ça, votre fiancé, votre femme, mais c'est clair, hein, vous êtes idolâtre. Si vous pensez à une personne du matin au soir et qu'elle envahit vos pensées, vous êtes idolâtre. C'est-à-dire que cette place a pris la place, cette personne a pris la place de, du Dieu vivant, de sorte qu'en fait, vous lui êtes absolument, voilà, entièrement dévoué. Et si c'est le cas, ressaisissez-vous maintenant. Dites-vous non, mais Dieu m'a donné une femme, un mari, ou un travail, ou des enfants, attention, des enfants, pour que je les aime, pour que je m'en occupe, mais pas pour qu'ils prennent la première place dans mon cerveau, pas pour qu'ils occupent toute ma pensée. Dieu a dit, tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de toute ta pensée, de tout ton cœur, etc. Si vous faites la même chose pour un être aimé, même si ça vous paraît légitime parce que vous l'aimez, votre fils, votre fille, votre mari, etc., eh bien là, vous vous égarez. C'est la même chose, hein. Donc il faut demander pardon si c'est le cas. Et si vous n'y arrivez pas, luttez. Dites, Seigneur, à partir de maintenant, mon mari, ma femme, mes enfants, enfin, ça dépend ce qui vous préoccupe, je ne veux plus qu'ils soient au centre de mes pensées. Je ne veux plus. Et vous luttez. Et vous demandez à Dieu. Et c'est ça, discerner le corps de Christ. C'est arriver en prenant la Sainte Seine, en disant, Seigneur, j'ai conscience de mes soucis, j'ai conscience, mais tu vois, je le mets devant toi et je veux en sortir, je veux lutter. Ce n'est pas être passif, c'est de dire, j'ai conscience que là, ma tête est prise et je veux me délivrer parce que tu n'as pas fait de moi un esclave. On n'a pas été fait pour être des esclaves de qui que ce soit dans nos pensées, dans nos corps. Donc, il faut lutter contre ces pensées. Donc, voilà. Par extension, à vous de voir quelle est votre idolâtrie. Si c'est un jeu, si c'est l'argent, si c'est le jeu d'argent, j'en sais rien, il y en a. Hein. C'est le sport, j'en sais rien. Trouvez, donnez le nom et agissez. Et luttez. Ceci étant dit, Dieu se moque un tout petit peu aussi. J'aime bien parce qu'il y a un peu d'humour. Dieu se moque. Dieu tourne en dérision. Regardez un peu ici ce qui est écrit. Les hommes ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, représentant les oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est ridicule, on est compte. Aller se prosterner devant une statue de serpent. Non, mais on rigole, mais il y a des gens qui le font. On rigole. C'est vrai que c'est ridicule. Mais il y a des millions de gens qui font ça, qui se prosternent devant des statues de je ne sais quoi, mais ils le font. Ça paraît absurde, mais ils le font et Dieu s'en moque. Dieu dit dans Psaume, enfin David écrit, les idoles des nations, or, argent, ouvrage des mains humaines, elles ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas, leurs oreilles n'entendent pas et dans leur bouche, point de souffle. Alors, attention, hein, je ne suis pas en train de simplifier les choses. Derrière les statues qui n'ont pas de bouche pour parler, derrière ces statues, ces idoles qui n'ont pas d'oreilles pour entendre, attention, il y a des démons, il y a des entités, il y a des puissances occultes. Bernard disait la semaine dernière que les démons croient aussi en Dieu, mais ils tremblent. C'est une parole de la Bible, même les démons croient en Dieu. Hein. Ils croient. Mais ils tremblent. Donc derrière ces pratiques, ces statues qui n'entendent pas, il y a des puissances. Des démons existent dans la Bible, est très clair là-dessus. La magie existe et elle a un effet. La magie est efficace, attention. Il y a des gens qui atteignent des buts par la magie, par la sorcellerie. Ce n'est pas pour rien que ça existe. On arrive à certains résultats avec ça, attention. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, la plupart des gens qui consultent en France, je suis allé regarder parce que je ne voulais pas vous fatiguer avec les statistiques, ils consultent pour trouver un petit copain, une petite copine. Ils consultent pour trouver un mari, une femme, parce qu'ils souffrent d'être seuls, ils souffrent d'être malheureux dans leur vie. Certains consultent pour trouver un travail. Oui, oui, mais des jeunes, hein. Des jeunes, aussi des personnes âgées. Des gens consultent simplement pour leur santé, parce qu'ils ont une mauvaise santé. Donc derrière, on va se dire, mais regardez les pauvres. Oui, mais nous ne sommes pas pauvres, j'aimerais vous dire. Là, on est en train de parler de personnes qui n'ont aucun saint vers lequel se vouer, aucune personne, aucun secours vers lequel se tourner. Mais moi, je ne m'estime pas pauvre, et vous non plus. Nous avons Dieu, l'Éternel. Nous avons son Fils, et nous savons vers qui nous tourner, attention. Nous ne sommes pas pauvres. Moi, quand je souffre dans un domaine particulier de ma vie, je souffre, mais je ne m'estime pas pauvre. Pas du tout. Je m'estime peut-être faible, je m'estime peut-être petit par rapport à une situation, mais je ne m'estime pas pauvre. Jamais. Pas du tout. Je sais que j'ai un Dieu et qu'au-delà de toutes ces difficultés, il n'y a pas de problème. Il est là et ça va. Quelle que soit la situation, ma vie est bien. Ma vie est bien. Même si elle est difficile, elle est bien. Il n'y a pas de problème. Donc, je ne m'estime pas pauvre. Donc, les pauvres, eux, peut-être, mais nous, non. Donc, il y a des puissances. Il y a des puissances occultes. Je n'ai pas choisi ce verset, je vais vous en parler, parce qu'il y a des gens qui disent « mais ça n'existe pas ». Même la Bible dit que ça existe. À un moment donné, le roi Saül, une armée se préparait à attaquer, à lui et ses hommes, etc. Et Samuel, le prophète Samuel, était déjà décédé. Alors, qu'a fait Saül ? Il est allé consulter les prophètes du pays. Pas de réponse de Dieu. Il est allé consulter l'Éternel. Pas de réponse de Dieu, parce que quand même, il y a des sacrificateurs, il y avait des sacrificateurs, il y avait des prêtres en Israël. Il y avait des gens à qui on pouvait aller présenter une doléance pour qu'ils consultent Dieu. Dieu n'a pas répondu à Saül. Alors qu'est-ce qu'il allait faire ? Il allait chercher une personne qui évoquait l'esprit des morts, qui les faisait remonter. Donc, il a demandé à certains de ses sbires, de ses gardes, des gens qui l'accompagnaient, d'aller chercher une femme comme ça. Et il y avait une femme qui était là et qui était dans la terreur parce qu'elle pratiquait ça en secret. Mais comme Saül avait interdit ça, il avait chassé toutes ces personnes-là. Elles avaient été pourchassées parce que c'était interdit. Dieu l'avait interdit. Elles se cachaient. Saül a quand même réussi à trouver une personne qui faisait ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Saül est allé chez cette personne et il a dit « Je veux parler à Samuel. Samuel, le prophète. » Mais à un moment donné, Samuel, il est monté. Et Saül a demandé « Que vois-tu ? » La personne a dit « Je vois une personne avec un manteau qui ressemble à un dieu. » Qui ressemble à un dieu. Donc Samuel a parlé à Saül et il a dit « Mais pourquoi troubles-tu mon repos ? Mais pourquoi troubles-tu mon repos ? » Saül a commencé à dire, ah ouais, mais je suis dans telle et telle situation. Bref, il a exprimé son désespoir. Samuel lui a dit, aujourd'hui même, toi et tes armées, tes fils, tu seras avec moi. Tu mourras. Parce que tu n'as pas écouté l'Éternel quand il t'a parlé. Moi non plus, je ne te répondrai pas. Tu mourras. La Bible nous montre bien que ces pratiques existe. Samuel a parlé au roi. C'est choquant quand même. Mais croyez-moi, je crois que c'est une chose, certainement Dieu a permis que Samuel parle au roi Saül, mais quand vous allez consulter l'esprit des morts, si quelqu'un va consulter l'esprit des morts, il ne sait pas à qui il a affaire, il ne sait pas qui parle derrière. Et si jamais un mort parle, eh bien, je ne sais pas comment est-ce que c'est possible. Mais en tout cas, c'est strictement une abomination aux yeux de Dieu. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui pensent que ces choses n'existent pas. Elles existent. Voilà pourquoi Dieu les interdit. Parce qu'elles ne sont pas dans l'ordre, ce n'est pas dans l'ordre des choses de faire cela. Ce n'est pas dans l'ordre des choses. Donc Dieu nous dit, au-delà du fait que ces statues... ces idoles faites de mains d'hommes sont incapables de parler. Nous avons vu qu'il y avait des puissances sataniques derrière, malgré tout. Elles sont, ces idoles de bois qui sont portées au cou ou qui sont invoquées sont incapables de sauver. En fait, les gens croient qu'en portant telle et telle chose, une amulette, etc., ils vont avoir la protection. Alors la plupart du temps, vous avez des charlatans qui leur vendent du vent, déjà, qui les trompent, parce qu'ils n'ont aucun pouvoir. Puis quand ils tombent sur vraiment des personnes qui pratiquent vraiment l'occultisme et qui ont un pouvoir, je ne crois pas du tout que les puissances sataniques soient là pour vous protéger. Donc quand on va se mettre sous la protection de je ne sais quelle puissance, vous vous exposez, on s'expose à la puissance de l'ennemi. Un ennemi restera un ennemi, hein. Il ne va pas vous protéger du tout. La seule personne capable de protéger l'humain, mais c'est Dieu, c'est le Créateur, celui qui l'aime et qui a envoyé son Fils. Le reste des puissances n'ont pas du tout d'intention favorable envers l'homme. Alors aller confier sa vie, son destin, sa famille, sa santé, ses enfants à des entités comme ça, ben, il faut s'attendre à des conséquences. Certaines personnes, malheureusement, ne considèrent pas ces choses et il peut y avoir des morts violentes dans leur famille. Il peut y avoir des choses terribles. Mais parce que le problème, c'est que quand on s'approche de certaines entités, on ne sait pas demain ce qui va se passer. Il y a des conséquences graves. Ces entités, ce sont des entités qui frappent, pas qui vous caressent, pas qui vous protègent. Donc, il faut faire très attention parce qu'elles ne sont incapables de sauver, mais par contre, elles sont capables de frapper. Ça, il faut être clair là-dessus. Donc, je terminerai en disant que on passe à l'idée, on peut revenir en arrière, selon laquelle, en fait, il faut revenir à Dieu. Alors, pourquoi ? Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Jaloux dans le sens noble du terme. C'est-à-dire qu'il ne tolère pas de partager. Rendez compte, est-ce que je vais partager ma femme avec 10 hommes ? Est-ce que vous allez partager votre homme avec 10 femmes ? Si vous êtes une femme, vous allez dire, tenez, ben voilà, je vous propose mon homme, voilà. Il est bien, hein, vous voyez ? Non, Dieu ne partage pas. Hein. Il y a un époux, une épouse, il y a la fidélité, il y a une alliance, n'est-ce pas, qui les lie. C'est la fidélité, on ne partage pas. Donc ici, regardez bien, je suis le Seigneur, tel est mon nom. Et je ne céderai pas ma gloire à un autre, ni ma louange aux idoles. Moi, la louange, elle est pour moi. Elle est rien que pour moi, la louange. Je ne la céderai pas à un autre. Ma gloire, elle est pour moi. Je ne cède pas ma place à un autre. Dieu est en train de dire, il faut choisir. D'ailleurs, il y a un verset dans la Bible qui dit, on peut servir 2 maîtres à la fois. C'est pas ? Soit tu en sers un, soit tu sers l'autre, mais ce n'est pas possible. D'accord ? On n'en sert qu'un à la fois. Donc là, on va rappeler un tout petit peu les versets qui montrent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Vous les connaissez, donc je vais aller assez vite. Après, je vais conclure. Donc, je suis le Seigneur ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Donc, vous avez un Dieu qui vous sauve. Le pays d'Égypte, c'est le pays de la difficulté. Vous avez un Dieu qui vous sauve, qui est là pour vous sauver, d'accord ? De la maison de l'esclavage. Lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il vient, il nous relève, il dit, tiens-toi droit, là devant moi. La tête haute, à partir de maintenant, je te mets l'anneau, je te mets une robe propre, je te lave. Et comme pour le fils prodigue, on fait une fête pour toi. Tu es propre désormais, je ne te demande pas de te prosterner là, c'est pas ça, voyez. Je t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Corinthiens, pour nous, au contraire, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui tout vient et vers qui nous allons, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout vient et par qui nous vivons. Dans Corinthiens, Paul nous rappelle qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Au cas où on serait tenté de penser qu'il y a des dieux, il y a un Dieu et des petits dieux. Il n'y a pas de petits dieux, il y a un seul Dieu. Jésus répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Tu ne serviras que ton Dieu et lui seul. On passe à la suite. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? Jésus répond, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Là, par contre, ce n'est pas un péché. Essayez, vous allez voir. Ça vous rendra heureux, essayez. Mais je peux vous dire que c'est difficile. Bizarrement, c'est beaucoup plus facile d'être obsédé par quelqu'un ou par quelque chose, de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, quand il s'agit d'or, d'argent, de femmes, de copains, de copines, de j'en sais rien. Mais quand il s'agit de Dieu, oh que c'est difficile. Ça devient beaucoup plus difficile d'être obsédé et d'être totalement envahi par sa pensée, vous voyez ? Alors, il faut essayer. Donc, je conclue. Si vous voulez, pourquoi est-ce que Dieu n'aime pas l'idolâtrie ? Pourquoi est-ce que Dieu n'aime pas les magiciens, les magiciennes, ceux qui vous disent la bonne aventure, ceux qui évoquent les morts, invoquent les morts pour que les morts vous racontent des choses ? Pourquoi est-ce que Dieu ne veut pas que vous alliez chercher les réponses auprès d'esprits ? Pourquoi ? Après tout, ils existent. Après tout, pourquoi pas ? N'est-ce pas ? On pourrait se dire ça, puisque c'est possible. Alors, pourquoi pas ? Ouais, mais il y a un problème de confiance. Et la confiance, elle est liée à l'intimité entre vous et Dieu. Le chemin, je crois que j'avais déjà dit il y a quelques temps, le chemin du disciple, c'est un chemin difficile. Sortons-nous de la tête, être chrétien, c'est facile. Si quelqu'un me dit ça, je lui dis, c'est pas vrai. Parce qu'il s'agit d'un chemin étroit. La Bible dit, c'est un chemin étroit. Il y a le chemin large, où que, si tu divagues, tu restes toujours sur le chemin large, puisqu'il est large. Et puis même, il peut s'élargir au fur et à mesure, n'est-ce pas ? Il est à géométrie variable. Mais le chemin étroit, étroit. Si tu t'écartes un peu trop, tu n'es plus dans le chemin, parce qu'il est étroit. Donc le chemin du disciple, c'est un chemin difficile. Il est difficile. Suivre Jésus occasionne des souffrances, occasionne des combats, occasionne des moments où il y a une lutte, où il y a une lourdeur, où il y a de la souffrance. Jésus lui-même, quand il était dans le jardin, juste avant qu'on vienne le chercher, les gardes viennent le chercher, il était saisi d'angoisse. Il était saisi d'angoisse, Jésus. Il paraît qu'à tel point que du sang transpirait de son front. C'est pas simple d'être chrétien. Ce n'est pas simple. C'est un chemin de disciple et ce n'est pas un chemin. C'est pas simplement. On n'adhère pas à un club, quoi. C'est un chemin de disciple et si vous êtes dans le chemin de disciple, sur le chemin de disciple, vous allez avoir des moments de combat, des moments difficiles. Et voilà la réponse. C'est que même si je ne sais pas ce qui m'attend demain, je marche, je ne sais pas ce qui m'attend demain, mais je marche quand même. Et quand le problème se présentera, il faudra que je l'affronte avec Dieu, avec mes frères et mes sœurs, avec les gens qui sont autour de moi, mais je ne dois pas savoir ce qui va m'arriver demain, je ne dois pas le savoir. Je dois avec foi marcher, ça c'est le cours de ma vie, affronter. Étape après étape, toutes les difficultés qui surviendront. C'est ça le chemin du disciple. Ce n'est pas un chemin pavé de roses et on ne doit pas savoir ce qui va arriver. On doit le découvrir. Et quand ça survient, on doit se comporter comme un disciple. Quand les problèmes surviennent, on doit se comporter. On ne doit pas savoir à l'avance. Ouais. Donc c'est un chemin difficile. Mon juste et mon juste vivra par la foi. C'est difficile de savoir pas. Surtout dans une société où on veut tout avoir. On veut tout savoir tout de suite. En un clic, on a tout, pardon. C'est tellement facile de dire, mais quand même, j'aimerais savoir. Mais non, tu ne sauras pas. L'avenir, connaître l'avenir, est une chose réservée à Dieu. Et même Jésus a témoigné de beaucoup d'humilité lorsqu'on lui a dit, mais quand est-ce que ça sera la fin des temps ? Eh bien non, Jésus a dit, mais seul le Père le sait. Il n'a pas dit, ah mais je vais vous dire, hein, mais ça je sais quand même. Jésus, il s'est retiré. Il a dit, ça, je n'ai pas à le dire. Il a dit, ça, il n'y a que le Père qui le sait. C'est beau ça. Des fois, on se retire, on est dans l'humilité et on dit, ben, j'affronte et je fais avec ce que j'ai. Donc, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Aie la foi pour sauver ton âme. Ne crains pas les difficultés, tu en auras. Mais aie la foi pour sauver ton âme. Ce qui plaît à Dieu, c'est la façon dont tu abordes les choses. Aie la foi dans tes difficultés. Affronte afin de devenir un homme, selon Dieu, une femme, selon Dieu. Mais c'est ça, on est appelé à ça, à grandir en marchant par la foi. Et ça, ça remonte au début de l'histoire entre Dieu et le peuple juif, entre guillemets, puisque Abraham a commencé par ça. On lui a dit, mais prends tes affaires hein, et vas-y, marche. Je te montrerai où tu dois aller. Et Abraham, il a pris sa caravane avec les uns les autres, et hop, 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 hop. Puis il ne savait pas où il allait. Vous vous rendez compte, c'est incroyable, par la foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Il faut croire que Dieu vous entend. Il faut croire que Dieu se préoccupe de vous. Il faut croire qu'il sait ce qu'il fait. Ce n'est pas vous qui avez les réponses à tout. Et si je devais mourir demain, ben, Castanienne, ok, allons-y. Si Dieu le permet, moi je lui fais confiance, alors, pas de problème. Où est le problème? Pourquoi toujours se préoccuper? Faisons confiance à Dieu. De toute façon, la montre, elle tourne. Hein. On peut faire ce qu'on veut. Un jour, il faudra lâcher prise. Lâchons prise. Soyons responsables dans ce qu'on a à faire. Vous voyez, j'ai préparé un message pour vous. Je n'ai pas dit, bah, tiens, je vais le faire à la légère. Mais j'ai fait juste mon travail. Mais je ne peux pas savoir ce qui dans 5 minutes ce qui va arriver. Donc, chaque chose doit être à sa place. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et voilà pourquoi aller voir les magiciens, les cartomanciens, les magnétiseurs, ou que sais-je encore, les gens qui vont voir au-delà du rideau, eh bien, ça déplaît fortement à Dieu. Parce que vous êtes en train de dire, tiens, Seigneur, tu sais, je t'aime bien, mais je me débrouille sans toi. Ça ne sert plus à rien. Vous n'avez plus besoin de Dieu dans ce cas-là. Si vous avez des magiciens, des gens qui vous disent ce qu'il y a à faire demain, qui vous révèlent quelque chose, si vous croyez que ce sont vos ancêtres qui vous protègent de là où ils sont, méchants comme ils étaient, mais oui, parce que la Bible dit que l'homme est méchant. La Bible dit que l'homme est méchant par nature. Mais moi, je ne vais pas me confier en un ancêtre. Désolé. Je ne vais pas me confier en un ancêtre. Moi, je me confie en Dieu. Si quelqu'un ici se confie en un ancêtre, allez-y. Mais là, vous péchez gravement. Parce que votre ancêtre, de là où il est, n'a aucun pouvoir. Il n'y a que Dieu qui est saint. L'ancêtre n'est pas saint. Ce n'est pas parce qu'il a eu les cheveux blancs qu'il était saint. Je connais plein de gens aux cheveux blancs qui font des horreurs. Qui ont commis des crimes. Il y a une idolâtrie des ancêtres. Et ça, c'est contraire à la pensée de Dieu. Par contre, attention, respectons nos ancêtres. Dans toute la Bible, quand on voit, on fait toujours référence à Jacob, on fait référence au père, aux mères. Il y a du respect. Pourquoi ne respecterions-nous pas nos ancêtres? Moi, j'ai du respect pour mes ancêtres, qui restent où ils sont, par contre. Qui restent où ils sont. Je ne veux pas du tout les approcher. Je veux pas de commerce avec eux. Pas du tout. Qui restent où ils sont. Moi, je suis ici. Attention, il faut que les choses soient claires. Quand on commence à vouer un culte à des ancêtres, à garder leurs cendres, à se prosterner tous les jours devant, là, vous commettez un péché. Attention à tout ça. Non. Donc, les ancêtres, c'est une chose, le respect, mais pas de culte et pas de commerce, pas de contact. Donc, un dernier verset sur la foi, après on va conclure. Si quelqu'un demande quelque chose à Dieu, je sais bien qu'on est tous confrontés à cela. On demande, mais nous ne recevons pas toujours. Parfois, nous ne recevons pas pour plusieurs raisons. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Si quelqu'un demande quelque chose avec Dieu, mais qu'il le demande avec foi, déjà, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme, qu'une telle femme, n'est-ce pas, ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme, c'est une femme, irrésolue, inconstant, inconstante dans toutes ses voies. On est appelé à faire confiance. Je disais à ma fille hier, Amy, est-ce que tu te soucies quand tu rentres le soir de ce que, si tu vas avoir à manger ou pas? Elle m'a dit non, papa. Je lui ai dit, est-ce que tu te soucies lorsque tu as besoin d'un habit, si tu peux en avoir un nouveau ou pas? Elle me dit non. Est-ce que tu te soucies de qui va financer ça, ça, ça? Non, papa. Je lui ai dit, donc tu as confiance en moi. Je lui ai dit, donc tu as foi, tu te reposes. Je lui ai dit, tu vois, parce que je lui ai lu ça, je lui ai dit, tu vois, Dieu nous dit, nous demande la même chose. Il nous demande d'avancer sans se préoccuper et de lui faire confiance. Et je lui ai dit, tu vois, moi, je suis un papa méchant. Parce que je suis humain. Je peux être bon, mais je suis méchant aussi. Je peux être méchant, c'est-à-dire que tu ne peux pas absolument me faire confiance. Je ne suis qu'un homme. Et je suis un enfant de Dieu, mais je n'ai pas encore déployé toute la stature de Jésus-Christ. Donc, il peut m'arriver de ne pas être bon. Et je lui ai dit, tu vois, tu me fais confiance. Alors, regarde, à plus forte raison, notre Dieu qui est parfait, on peut lui faire confiance. On peut lui faire confiance. Parfois, il faut examiner ce que l'autre te dit, qu'il soit ton mari ou ta femme d'ailleurs. Examine. Est-ce que ça, c'est bon? Non, ce n'est pas bon. Je ne suis pas d'accord avec toi là. Là, je ne suis pas d'accord. Je ne marche pas. Il faut savoir le dire. Mais à Dieu, on peut lui faire confiance absolument. Il n'y a pas de discussion parce qu'on sait que tout ce qu'il a prévu pour nous, tout ce qu'il fait pour nous, est bon. Il n'y a pas de réticence par rapport à Dieu. Donc c'est ce que j'ai dit à ma fille. J'ai dit, tu vois, moi je ne suis qu'un homme et tu me fais confiance, alors à plus forte raison. Voilà, on peut faire confiance à Dieu, mais vraiment de tout son cœur. Donc ce que Dieu, pour conclure, je termine, je pense que ce que Dieu n'apprécie pas au-delà de tout, c'est la trahison, c'est l'infidélité. Allez consulter, allez voir des voyants, allez avoir des entités que vous consultez qui soi-disant vous protègent. Je n'ai pas parlé des soi-disant anges gardiens, ça aussi, hein. Les gens qui soi-disant, même des chrétiens, qui disent qu'ils ont des anges gardiens, qui parlent à leurs anges, etc. Moi, je ne parle à aucun ange, hein. Désolé. Je ne vois pas dans la Bible d'enseignement où on te dit que tu dois parler à ton ange. Je ne vois rien là-dessus. Les anges sont des serviteurs de Dieu et pas nos serviteurs. Ils servent Dieu, sont des flammes au service de Dieu. Si Dieu veut les envoyer comme il a envoyé un ange parler à Marie, parler à... Oui, mais oui, Dieu envoie les anges. Mais à partir du moment où ils ont rempli leur mission, c'est terminé, ils rentrent. Ils ne restent pas à vos côtés à vous dire ce que vous avez à faire. Ceux qui entretiennent un culte des anges, qui ont des contacts avec des soi-disant anges, méfiez-vous. Là, vous êtes dans une grave erreur. Et à mon avis, vous allez avoir de gros problèmes. Donc, si vous avez été tenté, parce qu'il y a, il y a de la littérature là-dessus, hein, même dans les rayons chrétiens, attention, tout n'est pas bon. Tout n'est pas bon. Donc même ça, j'en ai pas parlé. Mais voyez, il y a tellement de voies d'égarement où on va remplacer Dieu par quelqu'un. Puis, sans compter, je termine par les différents saints. Ah ben moi, c'est Saint Hippolyte qui est mon protecteur. Et puis l'autre, c'est Saint Antoine. Et puis l'autre, c'est Saint Truc. Et puis chacun, Saint Rita. Et puis chacun a son saint. Oui, mais alors, plutôt que de parler à Dieu, on parle à son saint. Non, mais le saint, il est décédé. C'est comme Samuel. Samuel a dit, mais pourquoi troubles-tu mon repos? Si c'est un saint, il est décédé. Et là où il est, il reste. Il n'y a pas de saint. Il n'y a pas de saint. Et il n'y a pas de saint protecteur. Tout ça, c'est de l'idolâtrie. Et c'est une infidélité à Dieu. C'est une infidélité à Dieu. Donc imaginez que votre femme ou votre mari vous trompe. Imaginez votre joie à ce moment-là. Donc imaginons la joie du Seigneur quand on va voir d'autres personnes pour se confier nos vies. Imaginez la joie de Dieu, n'est-ce pas? Il doit être super content. Donc on ne peut pas. Donc pour conclure, c'est fini. J'aimerais vous dire. Non mais ça c'était la pré-conclusion. Pour conclure, je sais qu'ici, cet enseignement, tout le monde le connaissait à 99%. Mais je crois que tout le monde n'avait pas ces choses en tête, clairement. C'est bien de les rappeler, parce qu'il y a des personnes qui viennent, qui ne sont pas forcément avisées, qui ne lisent pas toute l'écriture. Et il faut être enseigné sur ces choses. D'accord ? Ça fait partie de la vie normale du chrétien, d'être enseigné. Et parfois, on peut être tenté. La tentation est là. On peut faiblir, je l'ai dit en introduction, ou on peut ignorer. Donc, maintenant, vous êtes avisé, j'ai délivré mon message. Sur mon cœur, la responsabilité est ôtée. J'ai fait mon travail, parce que Dieu me l'a mis à cœur. Et que chacun s'examine donc, que chacun rentre chez lui en disant mais où j'en suis par rapport à l'idolâtrie, qui est mon Dieu, qui est-ce que je sers, voilà, et fasse les bons choix, prenne les bonnes décisions pour demander pardon. Si vous estimez que vous avez vraiment besoin qu'on prie pour vous, parce que ces choses sont lourdes et parce que vous avez péché dans ce sens, ben, venez en cachette, pas devant tout le monde, appelez, dites j'ai vraiment besoin de prière là-dessus. Parce que là, je ne me sens pas bien du tout. Et avec une ou deux personnes, on viendra, on priera pour vous, pour que vous soyez restaurés. Mais ça passe d'abord par une repentance. Il faut d'abord se repentir. D'accord ? Donc voilà, j'ai terminé. J'espère que cela vous a aidé. Et puis, que Dieu vous bénisse.